Europe 1, il est 7h.
C'est moi qui ai expliqué, au président pour la première fois. Vous savez, la PCR, c'est très simple et tout le monde peut la faire.
C'est moi, le professeur Raoult, questionné pendant 3 heures par les députés de la commission d'enquête sur le Covid, les tests, mais aussi l'hydroxychloroquine qu'il défend plus que jamais. Dans un environnement économique morose, l'usine PSA de Rennes redémarre sur les chapeaux de roue. Les salariés sont aux anges.
C'est un cadeau magnifique pour la région. On a la chance que ça repart plein pot. Ça fait du bien parce que ça nous permet de remplir le frigo et de ne pas s'inquiéter pour l'avenir.
Un système de chômage partiel longue durée, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron aux partenaires sociaux jusqu'à 2 ans et avec des conditions avantageuses pour les employeurs. Ce sera l'éclairage éco de Nicolas Barré. L'épidémie inquiète aux États-Unis. Elle frappe désormais les États du Sud, de la Floride au Texas. Les Américains pourraient être interdits d'entrer en Europe. Et puis les touristes vont pouvoir retrouver le monument le plus emblématique de la capitale. La Tour Eiffel rouvre partiellement ce matin, mais il faudra grimper les 674 marches à pied.
D'habitude, en plein mois de juillet, on est à 23 000 visiteurs. Je pense que pour le premier jour, on sera à 3000, 4000 visiteurs.
Juste après ce journal, votre rendez-vous santé avec le docteur Jimmy Mohamed. 7h15, l'innovation pour les fêtards. Anissa Mbida nous présente des feux d'artifice silencieux, non polluants et réutilisables. 7h20, le monde bouge. L'allemand Volkswagen qui veut racheter Europcar, nous dira Axel de Tarlé. Très bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1. Il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Belliard, Hélène Zelani.
Sa barbe blanche, ses cheveux longs et ses déclarations tranchées font de lui la personnalité médiatique la plus en vue depuis le début de la crise du Covid. Le professeur Raoult a été entendu pendant 3 heures hier par la commission d'enquête de l'Assemblée. Grand défenseur de l'hydroxychloroquine, il a maintenu sa posture seul contre tous, Ève Roger.
Sur l'hydroxychloroquine, Didier Raoult confirme, c'est le meilleur traitement. D'ailleurs, le temps fera le tri, a-t-il dit, entre les études pour et les études contre. Il s'est simplement étonné, un peu flatté d'être à l'origine d'une polémique mondiale.
Je ne connais pas Trump et je ne connais pas Bolton. C'est pas moi qui leur ai dit d'utiliser la chloroquine.
En revanche, c'est bien lui qui a multiplié tout de suite les tests à Marseille. C'était la bonne stratégie et il l'a dit à qui de droit.
C'est moi qui ai expliqué, au président pour la première fois. Vous savez, la PCR, c'est très simple et tout le monde peut la faire.
Alors aux députés qui lui demandent pourquoi il a quitté le conseil scientifique qui aura peut-être besoin de ses conseils, il répond qu'il s'y sentait comme un extraterrestre. Et puis surtout, il accuse violemment l'équipe de Jean-François Delfraissy de conflit d'intérêts avec un laboratoire pharmaceutique.
Moi, j'ai été surpris de voir que le directeur de Gilead, devant le président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19.
Accusation grave, a souligné le rapporteur Éric Ciotti qui a promis d'y revenir. Mais il a fallu attendre la toute dernière question pour que Didier Raoult s'énerve quand il lui est reproché de ne pas avoir testé l'hydroxychloroquine avec un groupe témoin.
J'étais avant un grand scientifique et je suis resté un grand scientifique après avoir publié ça.
Attaqué à plusieurs reprises, le conseil scientifique que nous avons contacté s'est refusé à tout commentaire.
Vous avez entendu le professeur Raoult. C'est moi qui ai expliqué au président. Il se targue d'avoir conseillé à Emmanuel Macron de rouvrir les écoles. Mais cette influence supposée n'est pas très bien vue dans l'entourage du chef de l'État, Jean-Rémy Baudeau.
Il ne faut pas refaire l'histoire. Didier Raoult n'est pas le conseiller occulte du président. Les mots sont pesés, mais l'agacement palpable. Ce proche d'Emmanuel Macron goûte assez peu les déclarations du scientifique devant la commission d'enquête de l'Assemblée. Non, il n'influence pas le président, selon lui. Sur les écoles, on le voit le 9 avril. On annonce leur réouverture le 13, mais ça faisait 10 jours qu'on travaillait dessus, justifie ce conseiller du chef de l'État. À l'Élysée, on répète que Raoult est un grand scientifique. On reconnaît que le Marseillais a eu de bonnes intuitions. Mais ça n'est pas Didier Raoult qui a toutes les bonnes idées, tempête ce membre du premier cercle. Le professeur Raoult, personnage emblématique de la crise du Covid. Mais Emmanuel Macron a-t-il bien fait d'aller le voir à Marseille? Ne lui a-t-il pas donné trop de crédit? À cette question, la réponse est mesurée. Raoult est un phénomène social. Et ce conseiller de conclure, il dit quelque chose du pays. Il fallait le traiter ainsi.
Jean-Rémy Baudeau.
C'était un chiffre très attendu. Olivier Véran, ministre de la Santé, a annoncé hier une enveloppe de 6 milliards d'euros pour augmenter les salaires des soignants.
Oui, elle sera à partager entre hôpitaux et EHPAD publics, mais aussi en partie avec le secteur privé. Cette augmentation générale des salaires, dont on ne connaît pas encore la répartition exacte, sera effective au 1er juillet.
Europe 1, il est 7h04.
On parle beaucoup de la crise économique. Selon les prévisions du FMI, la baisse du PIB en Europe est vertigineuse. Elle pourrait atteindre moins 12,5% cette année pour la France.
Et pourtant, il y a aussi de bonnes nouvelles. Par exemple, à l'usine PSA de Rennes qui fabrique deux voitures très demandées, la Citroën C5 Aircross et la Peugeot 5008. Depuis le début de la semaine, tous les CDI ont repris le travail et une troisième équipe de nuit arrivera en renfort à la rentrée. De quoi redonner le sourire à la direction comme aux salariés. À Rennes, le reportage de François Coulon.
Personne n'avait prévu ce redémarrage sur les chapeaux de roue. La C5 Aircross et la 5008 ont fait un tabac dans les concessions dès la fin du confinement. Résultat, les 1600 CDI ont retrouvé leur poste et 400 intérimaires compléteront l'effectif début septembre. Stéphane Gélas, directeur de l'usine.
Le déconfinement, au tout début, a été une reprise extraordinaire des ventes, pour laquelle nous pensions qu'un effet d'euphorie pouvait peut-être masquer une suite un peu plus douloureuse. Là, aujourd'hui, il y a assez de robustesse dans les hypothèses de volume à produire pour pouvoir remonter ces équipes.
Mohamed est opérateur taulier depuis 33 ans.
C'est un cadeau magnifique pour la région. On a la chance que ça repart plein pot. J'étais étonné parce que je me disais que bon, les gens, vu qu'ils n'ont pas travaillé, tout ça, ils n'ont peut-être pas les moyens de s'acheter des voitures. Et puis apparemment, non. Ils veulent voyager, vu qu'ils sont restés enfermés, ils ont envie d'avoir une voiture et se promener. Ça fait du bien parce que ça nous permet de remplir le frigo et de ne pas s'inquiéter pour l'avenir.
Aucun cas de Covid ici pour le moment. La prise de température volontaire à l'entrée de l'usine et les masques, lunettes et gel portent leurs fruits. Rennes, François Coulon, Europe 1.
Emmanuel Macron l'a dit hier aux partenaires sociaux qu'il recevait à l'Élysée. Le chômage partiel va rester généreux. Un grand soulagement pour les entreprises. C'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré.
Et oui, d'ailleurs, il fallait choisir entre le maintien d'un dispositif de chômage partiel généreux mais qui coûte une fortune à la collectivité ou bien un coup de frein risquant de déclencher une avalanche de plans sociaux. Emmanuel Macron a donc tranché. Les aides de l'État vont certes diminuer, mais très progressivement, pas avant le 1er octobre prochain. Et surtout, le gouvernement va mettre en place un système de chômage partiel de longue durée pouvant aller jusqu'à 2 ans et qui va en effet rester très généreux.
La France va donc conserver l'un des systèmes de chômage partiel les plus avantageux.
En fait, après le 1er octobre, nous passerons à un régime comparable à ce qui existe en Allemagne. L'entreprise aura à sa charge 40% de ce qu'elle verse aux salariés en chômage partiel, contre 15% aujourd'hui. Et l'État remboursera les 60% restants. En revanche, les secteurs les plus touchés, comme l'aéronautique ou l'automobile, bénéficieront d'un traitement à part, puisque au-delà du 1er octobre, l'État et l'UNEDIC prendront toujours en charge 80% des salaires, à condition qu'il y ait un accord d'entreprise ou de branche. En clair, ça donne de la visibilité au patronat sur le chômage partiel jusqu'à la fin du quinquennat, en gros. Ça n'évitera pas les plans sociaux, mais la trentaine de milliards que va coûter cette année le chômage partiel permettra d'atténuer sérieusement l'impact social de la crise.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1. Et notez-le bien, à 8h15 ce matin, Sonia Mabrouk reçoit Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui répond à vos questions. Vous les envoyez déjà sur le hashtag Europe 1.
À 3 jours du second tour des municipales, on s'intéresse à Lyon qui pourrait devenir la première ville de cette importance, dirigée par un écologiste, Grégory Doucet, à la tête d'une coalition avec la gauche, est arrivé en tête au premier tour avec 28% des voix.
Face à ce qu'il considère comme un péril vert, Yann Cuchera, le poulain de Gérard Collomb, allié aux Républicains, on appelle au monde de l'entreprise.
Nous ne souhaitons pas que cette ville tombe dans les mains des Verts et de la France insoumise. On voit bien que depuis quelques semaines, le monde de l'entreprise, ils sont inquiets que cette ville puisse être en rupture avec sa trajectoire initiale. Je ne veux pas être dans une rupture où la ville de Lyon deviendrait un laboratoire expérimental qui, selon moi, irait dans le sens du repli, de la régression et qui n'irait pas dans le sens de l'histoire de cette ville de Lyon.
Propos recueillis par Jean-Luc Boujon, en lice également pour ce second tour, Georges Kepenekian, candidat dissident d'En Marche.
Europe 1. Les Américains interdits d'entrer en Europe, les 27 en discutent face à la recrudescence des cas aux États-Unis. On va en parler dans la suite du journal de 7h. A tout de suite.
Europe 1, il est 7h11, la suite du journal avec Hélène Zelani et Mathieu Béliard.
Aux États-Unis, le virus continue à gagner du terrain. Plus de 120 000 morts. New York fait désormais figure de bon élève. D'ailleurs, les terrasses et les coiffeurs ont rouvert cette semaine.
En revanche, l'épidémie fait des ravages dans le sud du pays, de la Floride au Texas, à cause d'un déconfinement trop rapide, comme l'explique le docteur Julien Cavanagh, médecin franco-américain dans un hôpital new-yorkais.
L'épidémie n'est absolument pas maîtrisée aux États-Unis. C'est une épidémie qui gagne du terrain dans les États du Sud. Aujourd'hui, on voit une augmentation très forte du nombre de cas parce que l'épidémie, elle a démarré plus tard, plus lentement. Et donc, les autorités publiques dans le sud des États-Unis sont un peu lassées, entre guillemets, et ont voulu rouvrir l'économie avant que finalement l'épidémie ait déjà démarré.
Le docteur Cavanagh au micro européen de Xavier Yvon.
Et cette situation fait peur aux Européens qui sont en train de préparer la réouverture de leurs frontières extérieures au 1er juillet.
Et la liste des pays autorisés sera bientôt dévoilée. Isabelle Horry, elle ne devrait pas inclure les États-Unis.
Et non, parce qu'ils choisissent ceux à qui ils vont ouvrir leurs portes sur la base de critères épidémiologiques. Ils ne veulent pas prendre le risque d'une nouvelle vague en Europe. Alors la discussion va peut-être prendre quelques jours encore entre les 27, mais les Européens ne s'en cachent pas. Un élément important pour eux, c'est le niveau de circulation du virus. Il faut qu'il soit à peu près équivalent à celui de l'Union Européenne, ou moindre évidemment. Or, les chiffres sont sans ambiguïté. Selon le Centre Européen de Contrôle des Maladies, ces deux dernières semaines, il y a à peu près 16 cas pour 100 000 habitants sur le vieux continent. Aux États-Unis, on est à plus de 100 cas pour 100 000 habitants. C'est très clair qu'ils ne pourront pas être sur la liste, estime un diplomate qui suit le dossier. Le secrétaire d'État américain affirme que le problème sera résolu dans les prochaines semaines. À Bruxelles, personne n'est aussi affirmatif.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. Le Brésil et la Russie pourraient également être exclus de la liste dans un premier temps.
Les touristes du monde entier, précisément, viennent l'admirer. 7 millions de visiteurs chaque année. La Tour Eiffel rouvre ses portes ce matin à 10h.
Oui, mais pas tout à fait comme avant, seulement jusqu'au deuxième étage et sans ascenseur. Jean-Jacques Herry est allé promener son micro devant la Dame de Fer.
Ça reste un symbole hein, pour le peu de touristes qui viendront ici.
Venus de Montpellier, Lucas et Chloé observent les ouvriers installer les barrières au pied de la Tour Eiffel sous un soleil de plomb. Très bientôt, les touristes y feront à nouveau la queue, pas eux. Leur méfiance est d'ordre sanitaire d'abord.
Est-ce que c'est vraiment une bonne idée par les temps qui courent ?
Le corona, il n'est pas parti, il est toujours là.
Et puis il y a peut-être aussi un manque de confiance en leur capacité physique, car c'est à pied qu'il faudra monter au deuxième étage, 674 marches à gravir, les ascenseurs restant fermés jusqu'à mercredi prochain.
Bon courage pour les handicapés et les asthmatiques, mais après bon, au moins, ils prennent pas de risques en plus quoi.
Sur le Champ de Mars, on ne croise presque aucun touriste étranger. Louis Joubert, patron d'un kiosque vendant gâteaux et rafraîchissements, s'en désole.
On attend avec impatience l'ouverture de la Tour Eiffel. Les affaires sont très dures, on fait même pas les frais du personnel.
Patrick Branco-Ruivo, directeur de la Tour Eiffel, s'attend à une reprise pourtant très lente. Il se base sur les réservations faites en ligne.
D'habitude, en plein mois de juillet, on est à 23 000 visiteurs. Je pense que pour le premier jour, on sera à 3 000, 4 000 visiteurs.
Et pour les rassurer, le port du masque sur le site est obligatoire. Des marquages au sol incitent à la distanciation. Et enfin, le nombre de visiteurs aux étages sera limité.
Elle rouvre donc à 10 heures, la Tour Eiffel.
Faudra monter à pied. Hein.
Ouais, mais ça fait du sport, c'est bien aussi.
Facile à dire, à 7h15. On y va tous à 10h. Allez, c'est bon, c'est un engagement. Merci Hélène Zélani. Vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil.
Et votre rendez-vous santé à 7h14 avec le médecin d'Europe, hein, Jimmy Mohamed.
Jimmy Mohamed, simplement, c'est pas le sujet, mais monter la Tour Eiffel, les deux étages, les deux, à pied, c'est bon pour la santé, on est d'accord?
Oui, mais je vous laisse commencer, moi je vous rejoins après.
Merci Jimmy. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 avec nous tous les matins. La vague de chaleur se poursuit et nous devons continuer de respecter les gestes barrières, il faut le rappeler. Et donc, de nous laver les mains. Nous avons tous désormais notre petit flacon de solution hydroalcoolique à proximité, mais est-ce que ça fait bon ménage avec le soleil ?
Alors déjà, il faut rappeler que les solutions hydroalcooliques, eh bien, ce n'est pas des produits de lavage de mains, ce sont des produits de désinfection. Alors, il faut rappeler la composition du gel hydroalcoolique. Alors d'abord, c'est un agent antibactérien, bon, plutôt classique, avec de l'alcool, et l'alcool peut dessécher la peau. Et du coup, dans cet alcool, on va rajouter ce qu'on appelle un émollient pour que ça rende plus gras, et en général, on rajoute du glycérol. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certaines solutions hydroalcooliques sont très épaisses. Eh bien, celles-ci sont juste riches en glycérol, et donc elles ne posent strictement aucun problème. Vous pouvez les utiliser. En revanche, ce qui pose problème dans la solution hydroalcoolique, c'est lorsqu'on rajoute un parfum, et c'est ce parfum qui peut être responsable de pigmentation pour la peau, car la solution hydroalcoolique en tant que telle n'est ni phototoxique, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire de réaction particulière au soleil, ni photosensibilisant, vous n'allez pas avoir d'éruption cutanée, donc ça pose aucun souci.
En revanche, Jimmy, solution hydroalcoolique et eau, je crois que ça ne fait pas bon ménage, non ?
Exactement, il faut éviter d'avoir les mains mouillées. Pourquoi ? Parce que déjà, on risque de diluer l'alcool. Si vous rajoutez de l'eau, eh bien, vous allez baisser le degré alcoolique et donc ça va être moins efficace. Et puis la deuxième raison, c'est que dans les solutions hydroalcooliques, vous avez parfois des agents antibactériens qu'on appelle le peroxyde d'hydrogène. Et bien ça, si on le rajoute à l'eau, vous allez avoir immédiatement une brûlure et donc de l'irritation. Donc ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est de vous laver les mains avec de l'eau et du savon. Attention, on applique la solution hydroalcoolique uniquement sur des peaux sèches. On évite les produits parfumés. Vous n'avez pas besoin de sentir bon des mains. Vous vous lavez les mains. Et puis enfin, la seule chose que vous devez vous tartiner de toute façon sur le corps, c'est la crème solaire. Ce n'est pas la solution hydroalcoolique.
Merci Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. On vous retrouve tous les jours après le journal de 7h, bien sûr. Et à partir de 15h, l'émission Sans Rendez-vous. L'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez.
Il est 7h16 sur Europe 1, l'innovation du jour. On est avec Anissé Mbida.
Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Dans moins d'un mois, ce sera le 14 juillet et beaucoup ne savent pas encore s'ils auront droit à un feu d'artifice. Il y a bien sûr des questions de distanciation, mais aussi Anissé, de bruit et de pollution. Ce matin, vous arrivez peut-être avec une solution, un feu d'artifice à la fois silencieux, non polluant et réutilisable.
Oui, un feu d'artifice écolo, monsieur. C'est totalement écologique, tout simplement, parce qu'il utilise plus de poudre ni de pétards, mais à la place des fusées électriques avec plein d'ampoules multicolores qu'on ira récupérer après le spectacle. Alors, ça ressemble à une petite tige avec deux pales placées au bout, ça fait une quinzaine de centimètres, et ça fonctionne un petit peu comme les jouets hélicoptères, vous savez, qu'on lançait en l'air quand on était petit, qui retombaient tout doucement
quand ils voulaient bien.
En tourbillonnant. Là, ça marche mieux, hein, parce que c'est la version très high-tech de ce système. Il y a d'abord un lanceur électrique qui envoie la fusée à 60-70 mètres de haut et quand elle redescend, eh bien, elle va s'illuminer avec toutes les couleurs qui ont été programmées à l'avance.
Et comment est-ce qu'on la récupère? Il y a un système de guidage?
Alors oui, il y a des petits capteurs à l'intérieur qui vont calculer la façon dont la fusée est déviée et des petites ailettes qui vont réajuster la trajectoire pour qu'elle revienne grosso modo à la position de départ.
C'est un boomerang en fait.
Ouais, bah, sauf qu'il va en l'air là. Et donc il y a besoin que d'un tout petit périmètre de sécurité pour tirer son feu d'artifice, donc on peut en tirer quasiment n'importe où, et tout ça sans bruit, sans odeur et sans fumée toxique chimique polluante.
Bon, c'est juste dommage pour le bruit. Oui, c'est bruyant un feu d'artifice, mais c'est aussi ça qu'on aime, non?
Oui, mais rien n'empêche d'adapter, vous savez, des têtes sifflantes sur les fusées.
Ah, quand même.
Et ça marche très très bien. Mais c'est vrai qu'il n'y aura plus le bruit d'explosion, ce qui d'ailleurs n'est pas plus mal, parce que je ne sais pas si vous avez un chien, mais les explosions, les feux d'artifice, ça panique complètement les animaux.
J'ai pas de chien, mais j'ai déjà vu des chiens s'énerver.
Voilà, et donc à la place, on pourra faire de vrais spectacles son et lumière. C'est tout nouveau, c'est développé par la start-up Ramax, et c'est peut-être le feu d'artifice du futur.
Est-ce qu'on le souhaite? Je me pose la question, ça, c'est mieux pour les animaux, c'est mieux pour la pollution et tout ça?
C'est joli aussi.
Il faut que ça fasse du bruit, que ça sente la poudre, non? Je ne sais pas.
Ancienne école.
Un petit peu vieux jeu, peut-être. Anissé Mbida, merci beaucoup. L'innovation tous les matins. Il est 7h19.
Europe 1. La crise inquiétante des candidatures des pays organisateurs de la prochaine Coupe du Monde féminine de football. Ce sera l'édito sport de Virginie Fulpin.
Juste avant Le Monde bouge avec Axel de Tarlé. À tout de suite.
7h21, la matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard.
Le monde bouge avec Axel de Tarlé. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Volkswagen veut racheter Europcar. Le constructeur allemand espère ainsi pouvoir basculer dans ce qu'on appelle l'économie collaborative.
Alors l'économie collaborative, c'est quoi? Eh bien c'est cette idée que ça ne sert plus à rien de posséder physiquement quelque chose, mieux vaut en avoir simplement l'usage. Alors exemple maintenant, dans la musique par exemple, autrefois on achetait un CD qu'on possédait physiquement. Eh bien aujourd'hui on paye un abonnement pour avoir accès à toutes les musiques. Et cette économie collaborative pourrait bien s'appliquer dans l'automobile. D'autant que dans les grandes villes, on le sait, c'est de plus en plus compliqué d'avoir une voiture. Et donc plutôt que de s'évertuer à posséder une voiture, pourquoi ne pas simplement en avoir l'usage? C'est exactement le principe des plateformes type Uber, BlaBlaCar ou Drivee, hein, qui s'appelle maintenant GetAround, qui sont autant de façons de rouler en voiture, quand on veut, où on veut, sans posséder de voiture.
Et donc, avec Europcar, Volkswagen chercherait à organiser cette économie collaborative?
Exactement, parce qu'aujourd'hui, les loueurs de véhicules ont des modèles très 20e siècle, hein, très ancien monde. En gros, ils attendent le gogo dans les gares ou les aéroports et sur facture si vous rendez la voiture avec une rayure. Donc, pas très populaire. D'ailleurs, vous savez que Hertz vient de faire faillite aux États-Unis. Quant à Europcar, il a dû solliciter une aide d'État pour survivre à la crise. Bah, effectivement, Volkswagen voit en Europcar l'outil idéal pour essayer d'organiser lui-même même cette économie du partage où l'on ne possède plus de voiture, mais on paye un abonnement pour en avoir l'usage. Avec au passage, petite cerise sur le gâteau, l'impression pour Volkswagen de faire une excellente opération financière, puisque figurez-vous que Europcar appartenait autrefois à Volkswagen, qu'il a vendu pour 3 milliards d'euros il y a une quinzaine d'années et pourrait donc le racheter aujourd'hui quasiment 10 fois moins cher. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis, dernier point très opportuniste, vous savez, posséder un loueur quand on est un constructeur, c'est toujours bien pratique pour écouler ses invendus. Autant de raisons qui poussent Volkswagen aujourd'hui à vouloir racheter Europcar.
Le monde bouge. Merci Axel de Tarlé. On le comprend mieux avec vous. Le monde bouge, vous le racontez tous les matins. Il est 7h23.
Sur Europe 1, c'est l'édito sport avec Virginie Fulpin.
Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
La FIFA choisit aujourd'hui quel pays organisera la Coupe du Monde féminine en 2023. Au départ, il y avait 9 candidats, mais ils ne sont plus que 2. Votre crainte, Virginie, c'est que plus personne n'ose se lancer dans l'organisation de grands événements sportifs et que le sport féminin soit le premier touché.
Ouais, c'est la crise des candidatures hein, pour les Jeux Olympiques, pour les Coupes du Monde, c'est la même chanson. Il y a quelques années encore, le pays qui réussissait à obtenir l'organisation d'un grand événement sportif décrochait le Graal. Hein. Tout le monde se battait pour être l'élu. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ça devient une punition d'être un pays organisateur. Pourtant, on a de bons souvenirs vivaces. Hein. Il y a un an, la Coupe du Monde féminine de football avait lieu en France. Ça a été un énorme succès. Et il y avait donc déjà 9 candidats pour organiser la suivante en 2023. Mais oui, mais au fil des mois, il y a eu 7 désistements. Il ne reste plus que la Colombie et le duo Australie-Nouvelle-Zélande à départager aujourd'hui. Le dernier candidat à avoir jeté l'éponge, c'est le Japon, il y a 3 jours seulement. Le pays doit déjà faire face à un report de ses Jeux Olympiques, dont la majorité des Japonais ne veulent plus d'ailleurs. Alors se lancer dans une nouvelle aventure, bah, très peu pour eux. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est qu'un événement sportif, bah, ça coûte trop cher. Les populations aiment autant que ça se passe ailleurs que chez elles. Il y a des critiques sur l'empreinte écologique de ces compétitions. Et puis en plus, maintenant, il y a la menace de pandémie qui peuvent tout mettre à terre. Donc qui peut se permettre de prendre de tels risques? Les États y réfléchissent à 2 fois. Et oui, ma crainte, c'est qu'à l'avenir, seuls les pays très riches, comme les pays du Golfe, par exemple, se lancent, ou uniquement les pays autoritaires, qui se fichent, eux, pas mal de l'opinion de la population.
Et vous le disiez, le sport féminin, le premier touché.
Bah, c'est toujours le premier touché. Hein. Là, ça se voit avec cette hécatombe des candidatures pour la Coupe du Monde de foot. Quand le monde vit une crise comme aujourd'hui, sanitaire et économique, en sport, c'est d'abord les femmes qu'on lâche. Ça existe dans les clubs, dans tous les sports. Et pour les candidatures au Mondial. Alors pour l'épreuve masculine, même si ça devient plus compliqué d'avoir de potentiels organisateurs, on y arrivera parce que ça reste une valeur refuge. Alors que pour le foot au féminin, les pays ont l'impression de prendre un risque supplémentaire parce qu'ils ne sont pas sûrs que le succès sera au rendez-vous. Et ils se disent que c'est peut-être beaucoup d'investissement pour rien, donc ils se désengagent. J'espère vraiment que le Mondial en France n'aura pas été l'apogée pour le sport féminin avant de traverser des années sombres. La crise des candidatures est de nous inviter à repenser les événements sportifs, mais tous, hein, pas juste les compétitions féminines.
Virginie Fulpin, l'édito sport que vous attendez tous les matins, vous écoutez puis vous partagez sur le hashtag Europe 1. Merci Virginie. Il est 7h26.
Europe 1. Un nouveau journal dans un instant, la météo avec Laurent Cabrol. À tout de suite.
7h29, Laurent Cabrol avec nous. C'est l'heure de la météo, Laurent.
Ah, elle piaffe la chaleur. Hein. Elle a envie de se manifester. Rendez-vous compte, il fait déjà 24 degrés au Cap Corse et une ville comme Boulogne-sur-Mer, hein, dans le Pas-de-Calais, 23 degrés en ce moment. Lons-le-Saunier, 23 degrés. C'est incroyable comme la chaleur peut vraiment s'intéresser à des villes qui d'habitude ne battent pas beaucoup de records. En banlieue parisienne quand même, 21 degrés en banlieue. Voilà, ce sont les températures actuelles bien sûr. Et dans le courant de la journée, ça va grimper. 36 à Pithiviers, parce que j'aime bien Pithiviers. Oui, il y a un gâteau là-bas, tiens.
36 très bon
à
gâteau, Pithiviers.
Et Nemours. Je ne sais pas pourquoi depuis ce matin je parle de Pithiviers. Mais enfin,
parce que vous avez faim, Laurent.
Voilà, certainement le gâteau. 35 à Lyon et Paris. Nevers, Rennes, Dijon, Toulouse, Clermont-Ferrand. 33-34, Bordeaux-Nantes 32, 31 à Nancy, 30 à Lille, à Caen, Marseille, Valenciennes, Colmar, 29 à Belfort cet après-midi et 27 à La Rochelle et 26 à Nice. Voilà pour des températures très chaudes avec une tendance orageuse très marquée sur le littoral atlantique dont je vous reparlerai tout à l'heure. Cette tendance orageuse, les orages pourraient être forts mais ils ne seront pas très nombreux. Mais enfin, il va falloir faire attention quand même.
Merci Laurent Cabrol, vous êtes sur Europe 1 avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal, il est 7h30.
Qu'on a, c'est l'apparition de la nature qui est revenue au galop. J'avais dit un petit pouce, tous pourraient risquer d'être absorbés par les réacteurs lors d'un décollage ou un atterrissage.
L'aéroport d'Orly, de nouveau en piste, reprise des vols demain après 3 mois de fermeture et nous étions au cœur des tout derniers préparatifs. 6 milliards d'euros pour de meilleurs salaires pour les soignants, première annonce du Ségur de la Santé. Dans ce journal, on vous explique le nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée présenté hier aux partenaires sociaux. Et puis les failles des clés main libres pour ouvrir et démarrer votre voiture. Le système facilite aussi la vie des voleurs.
Justement, le dispositif de chômage partiel de longue durée imaginé par Hubert Bongon, mon invité, délégué général de l'Union de l'industrie des métiers de la métallurgie à 7h40. 7h50, c'est Périscope, votre rendez-vous culture, Jean-Philippe Ballas et le festival Jazz à Vienne. Enfin, la France en queue de peloton dans les prévisions du FMI, 12,5% de récession annoncée. Il faut se remettre au travail et vite, nous dira Nicolas Bétou avant 8h. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Premier vol dans un peu moins de 24 heures. Demain, 6 heures, un voyage vers Porto marquera la fin d'un sommeil de 3 mois pour Orly, deuxième aéroport français fermé en quasi-totalité en raison de la pandémie.
Réouverture très progressive. Un seul terminal en activité, 70 vols contre 600 habituellement à cette période. Cela fait des jours que les salariés préparent la relance de cette énorme machine. Aurélien Fleureau était dans les coulisses des tout derniers préparatifs.
On avait vraiment l'impression d'avoir un aéroport à l'abandon, quoi.
La piste d'Orly 3 a beau être flambant neuve, elle a pris la poussière. Alors pour tout nettoyer, Didier Amirou a deux armes, la balayeuse de son camion et ses yeux, 20 ans d'expérience.
Ce qu'on a, c'est l'apparition de la nature qui est revenue au galop. Dans les joints, vous avez de l'herbe qui pousse, tous qui pourraient risquer... soit d'être absorbé par les réacteurs lors d'un décollage ou un atterrissage.
Après avoir croisé quelques tracteurs en train de tondre les pelouses près des tarmacs, direction le sous-sol d'Orly avec Vincent Moussinet, responsable du tri-bagage.
Le tapis de bagage, c'est comme une voiture, ça a besoin de continuer à tourner en permanence. Sinon, ça crée des usures prématurées des mécanismes. Et de ce fait, on pourrait redémarrer mal notre exploitation.
Et pour accueillir les passagers, les boutiques se préparent également. Vérification des dates de péremption, installation des bouteilles et anticipation des nouvelles mesures sanitaire, Mathias Castillo, manager des Duty Free.
Sur une boutique comme celle-ci qui fait 1500 m², on peut accueillir 160 passagers de manière simultanée avec un comptage des entrées et mais également des sorties pour pouvoir adapter en permanence le flux.
Une reprise progressive avec 8 fois moins d'avions que d'habitude. Conséquence, seuls 60 des 400 salariés des boutiques d'Orly 3 reviendront travailler demain.
Et autre réouverture aujourd'hui, celle-ci, la Tour Eiffel à partir de 10h, pas d'ascenseur pour précaution sanitaire, ascension par les escaliers et seulement jusqu'au deuxième étage pour l'instant. Le port du masque est obligatoire.
Une première annonce issue du Ségur de la Santé. Consultation pour améliorer la situation des soignants. Le ministre Olivier Véran est prêt à injecter 6 milliards d'euros pour augmenter les salaires. En théorie, dès le mois prochain.
Précision à venir sur la répartition entre hôpitaux et EHPAD publics et aussi pour partie avec le secteur privé. On en parle dès le début du journal de 8h.
Préserver le plus d'emplois possible face à la crise économique. C'est le sens du nouveau dispositif de chômage partiel présenté hier par Emmanuel Macron aux partenaires sociaux. L'activité partielle de longue durée.
Dispositif qui pourra être appliqué pendant 2 ans, si besoin. Entrée en vigueur dès le 1er juillet, Olivier Samin, à une condition essentielle pour les entreprises.
L'élément clé du dispositif, c'est l'accord qui devra être conclu avec les syndicats. Sans cet accord, pas d'aide de l'État à l'entreprise qui est confrontée à un trou d'air et qui veut garder ses salariés dans l'optique du rebond de son activité dans un délai de 6 mois à 2 ans. Cet accord, il devra fixer des engagements en termes d'emploi. Mais attention, pas nécessairement le maintien de tous les emplois. Il pourra y avoir un plan de départ volontaire, voire des licenciements, si les syndicats, rejoignant la direction, conviennent que c'est nécessaire pour assurer la pérennité de l'entreprise. C'est un pari sur le dialogue social, dit l'entourage d'Emmanuel Macron. Une fois l'accord conclu, et à condition que la baisse d'activité reste contenue en dessous de 40%, l'entreprise maintiendra la rémunération de ses salariés au même niveau que ce qui est prévu dans le chômage partiel actuel. Autrement dit, 100% du salaire net pour ceux qui sont payés au SMIC et 84% pour ceux qui gagnent plus que le SMIC. Et il suffira ensuite à l'entreprise de se faire rembourser par l'État à hauteur de 80% les sommes qu'elle aura dépensées et même 85% si l'accord est conclu avant le 1er octobre prochain.
Nouveau système qui sera plus avantageux que le régime classique de chômage partiel qui n'indemnisera plus les salariés qu'à hauteur de 72% du salaire net à partir du 1er octobre.
On va en parler juste après ce journal avec mon invité de l'UIMM, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Les juges d'instruction reprennent les investigations dans l'affaire Alexis Kohler, plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron, accusé d'avoir dissimulé ses liens familiaux avec l'armateur MSC alors qu'il était directeur de cabinet du ministre de l'économie.
Judiciaire ouverte après une première enquête classée sans suite. Emmanuel Macron avait à cette époque rédigé un courrier pour prendre la défense d'Alexis Kohler. Pression présidentielle, l'Élysée réfute, mais Élise Van Beveden s'interroge. C'est la présidente de l'association Anticor à l'origine de la relance de l'enquête.
C'est normal que M. Kohler organise sa défense. Ce qui interroge, c'est que cette attestation, ce courrier, est arrivé à la fin de l'enquête préliminaire, après 1 an d'enquête, alors que dans l'enquête préliminaire, il y avait déjà des attestations. Donc la question c'est, est-ce que cette lettre de M. Macron a changé la donne, a changé les conclusions de l'enquête? Si elle les a changées, est-ce qu'elle les a changées parce qu'elle a apporté un nouvel éclairage? Ou est-ce que les faits qui sont attestés par cette lettre étaient déjà présents au dossier? Et du coup, est-ce que cette intervention était d'une autre nature? D'une nature qui est susceptible de remettre en cause la séparation des pouvoirs.
Élise Van Beveden, présidente de l'association Anticor, jointe pour Europe 1 par Salomé Legrand.
Ce petit boîtier glissé dans votre poche ou votre sac à main, la clé main libre qui déclenche l'ouverture de votre voiture quand vous en êtes proche, c'est pratique, oui, mais le système comporte des failles.
Le magazine Que Choisir a testé 330 modèles. Conclusion, seulement 5 sont inviolables. Les autres peuvent laisser porte ouverte au voleur, Jean-Sébastien Soldaini.
En temps normal, l'ouverture se déclenche à seulement quelques mètres de la voiture. Mais 2 voleurs équipés chacun d'un boîtier parviennent à étendre cette portée à plus de 100 mètres. Si vous êtes attablé à une terrasse ou bien pendant que vous dormez et que vos clés se trouvent juste derrière votre porte d'entrée, ils arrivent à faire croire à l'ordinateur de bord que vous êtes à proximité. les portes s'ouvrent, il est même possible de démarrer. Lars Lee, ingénieur chez Que Choisir, affirme qu'il ne lui a fallu qu'une centaine d'euros pour acheter des composants accessibles à tous.
C'est un jeu d'enfant dans la mesure où la technologie utilisée actuellement est vraiment basique. Une fois que les boîtiers ont été fabriqués, c'est tout à fait faisable par un amateur. La voiture se vole en 2 minutes maximum. Ça montre que ces systèmes sont peu fiables et chers.
Les constructeurs conscients du problème travaillent à des parades, notamment en remplaçant les systèmes main libre par votre smartphone ou alors en utilisant des longueurs d'onde différentes, ce qui permettrait à la voiture de savoir précisément à quelle distance se trouve la clé. En attendant, il est conseillé de désactiver le système ou de placer le dispositif dans une boîte spéciale comme pour les cartes bancaires sans contact.
Et puis avis aux Franciliens, trafic du RER B très perturbé aujourd'hui après hier le déraillement d'un train sans voyageurs. Et puis circulation différenciée aujourd'hui à Paris et proche banlieue en raison d'un pic de pollution à l'ozone. Il fait très chaud. Vous devez être muni d'une vignette critère 0, 1 ou 2 pour circuler.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix. Vous êtes sur Europe 1. Un nouveau journal à 8h tout à l'heure avec François Geffrier.
Europe 1. La suite de la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Les dossiers du gouvernement sur le travail, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, les règles sanitaires, la relance également. Où est-ce qu'on en est ce matin de l'ambition d'un retour à l'emploi rapide, massif? Où en sont les entreprises à plus d'un mois du déconfinement? 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Elle répond à vos questions, vous les posez déjà nombreux sur le hashtag Europe 1. Mais tout de suite, il a inspiré ce nouveau dispositif de chômage partiel de longue durée dont on parle beaucoup ce matin. Il l'a imaginé à l'échelle de l'industrie. Hubert Mongon, délégué général de l'UIMM, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. À tout de suite.
À 7h40, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1. Votre invité Mathieu Béliard, Hubert Mongon, délégué général de l'Union des industries et métiers de la métallurgie.
Bonjour Hubert Mongon.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous. La situation est préoccupante. Alors je vais dresser un portrait ce matin qui n'est pas glorieux, extrêmement préoccupante. Je le disais, l'UNEDIC qui annonce 900 000 destructions de postes cette année. L'exécutif prévoit un taux de chômage à 10% à la fin de l'année. Le FMI qui prévoit 12,5% de récession. Bon. Alors comment fait-on, Hubert Mongon, le chômage partiel pour éviter des licenciements massifs? Ce dispositif de chômage partiel de longue durée, c'est vous qui avez soufflé l'idée à l'exécutif?
Écoutez, c'est vrai qu'on avait, il y a un mois, travaillé avec nos organisations syndicales, qu'on connaît bien. On a une relation de confiance établie depuis des années, avec l'objectif effectivement d'essayer de tout faire dans cette période très compliquée pour l'industrie, de garantir l'emploi et de préserver les compétences. On a essayé de tirer les leçons effectivement de la crise de 2008, qui avait été extrêmement violente pour nous. On a mis 10 ans finalement à remonter le niveau d'activité et retrouver les compétences et les qualifications dont on avait besoin. Et donc on essaie de réfléchir à un système qui pouvait à la fois préserver l'emploi dans la majorité des cas, permettre effectivement aux salariés d'avoir une indemnisation qui soit la plus élevée possible, et puis aider les entreprises. Et puis c'est vrai que bon, on a eu la chance d'apprendre hier que ce système avait été adopté plus globalement pour d'autres secteurs d'activité, parce que je pense qu'il intéresse également d'autres secteurs d'activité que l'industrie.
Je le souligne d'ailleurs pour nos auditeurs, on l'entend assez souvent dans les interviews, les leçons de 2008, l'enseignement des leçons de la crise de 2008. Alors les réactions sont mitigées côté syndical, parce qu'il y a ce dispositif qui permet 2 ans de chômage partiel, a pris en charge, vous l'avez dit, 84% par l'État. Mais il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas d'engagement nécessaire à ne pas licencier.
Alors attention, je crois qu'il faut être précis là-dessus. D'après ce qu'on a effectivement entendu hier, l'objectif c'est d'avoir un accord d'entreprise, donc une négociation, donc au cas par cas, soit dans les établissements, soit dans les groupes, ou dans les branches, lorsque cela est possible. Et c'est le fruit de cette négociation qui effectivement répondra à la question que vous posez, que vous adressez, qui est très juste, qui est, s'agissant de l'emploi, comment les choses vont se passer pendant ces 2 années-là au maximum, parce que je rappelle que c'est une durée maximum. Donc, moi, je fais confiance aux partenaires sociaux pour pouvoir trouver les bonnes solutions et les solutions adaptées. Mais la négociation...
Vous disiez, on a très bon rapport avec les partenaires sociaux dans l'industrie.
On se fait confiance, on se connaît depuis des années.
Et vous donc, êtes capable ce matin de prendre un engagement pour l'industrie sur les licenciements?
Vous savez, une négociation, ça se fait à plusieurs. Donc, c'est pas... voilà, on fera évidemment des propositions et chacune des entreprises le fera. Mais il faut bien comprendre que c'est par cet accord qu'on arrivera à trouver les bonnes solutions. En tout cas, l'UMM croit, vous le savez, depuis des années au dialogue social. Ce dialogue social est fondamental dans la période que l'on a vécue. Pendant 3 mois, on l'a très bien vécu. Dans la métallurgie, on a signé très tôt une déclaration commune sur les conditions sanitaires, sur les conditions d'emploi. On a réussi à signer un accord de branche sur l'organisation des congés payés. Et puis, effectivement, on a signé ce manifeste le 18 mai qui répondait finalement aux questions que vous me posez ce matin. C'est-à-dire comment on peut tout faire pour que nos entreprises puissent reprendre et être lancées dans des conditions satisfaisantes, notamment pour l'emploi. Donc c'est bien l'accord d'entreprise qui fera la différence.
On va entrer dans le détail, et le détail des emplois qui sont à préserver et à sauvegarder en France. Mais d'abord, de votre poste à l'UIMM, qu'est-ce que vous voyez ? Les plans sociaux sont en préparation, ils sont déjà dans les tuyaux. Je disais, l'UNEDIC annonce 900 000 destructions d'emplois.
Non, écoutez, ça va être très compliqué. Je crois qu'il ne faut pas se cacher. À l'heure où je vous parle, on est sur des moyennes de baisse d'activité dans nos métiers de l'ordre de 30%, 35%. Ce qui veut dire très concrètement, effectivement, c'est que nos entreprises vont beaucoup souffrir dans les mois qui viennent. La demande n'est pas là. Aujourd'hui, les carnets de commandes qui étaient plutôt bien remplis au début de cette année sont extrêmement dégradés. Et dans certains secteurs, effectivement, comme l'aéronautique, par exemple, la situation est extrêmement tendue. Et donc, oui, malheureusement, nous nous acheminons vers des moments compliqués. Et donc, l'engagement, sans doute, de plan de sauvegarde pour l'emploi.
Est-ce que vous pouvez, ce matin, chiffrer combien d'emplois vont être détruits dans l'industrie ?
Non, écoutez, on est sur des chiffres a priori qui seront importants. D'abord, il faut regarder sur les autres secteurs effectivement de quoi on parle. On est en train de faire des études et des projections, et notamment sur ces deux prochaines années, en essayant de tenir compte des expériences du passé par rapport à ça. Mais
vos projections, je crois
qu'on peut dire, écoutez, quand je vous parle de baisse d'activité, ça veut dire qu'on aura sans doute effectivement des suppressions de postes dans nos métiers dans des proportions importantes.
Pas de chiffres encore ?
Pas pour l'instant.
Pas pour l'instant, Hubert Mongon. Alors, simplement, quels emplois est-ce qu'on préserve ? Il faut bien comprendre, surtout pour l'industrie, c'est important.
Oui, il faut bien avoir en tête que l'industrie, ce sont des métiers très qualifiés, ce sont des métiers d'experts. Et donc, on a absolument besoin, effectivement, dans les métiers de production, de chaudronniers, de soudeurs, de régleurs, d'usineurs, voilà, qui sont des métiers qui, pour nous, sont majeurs. On a également besoin de fonctions support. La recherche et le développement est extrêmement importante pour nous. Toute la dimension commerciale est importante. Et tous les autres métiers, effectivement, sont également importants. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on va avoir besoin de préserver notre capital humain et nos ressources. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va essayer, notamment à travers le nouveau dispositif d'activité réduite, puisque c'est ça l'actualité aujourd'hui, de pouvoir effectivement faire des choix et faire les bons choix, issus encore une fois de l'expérience que nous avons de la crise de 2008.
On a des savoir-faire, on a des talents, on a des ingénieurs, des techniciens, des cols blancs. Il s'agit de préserver ces emplois, être prêt au moment de la reprise.
Absolument, c'est ça qu'on va essayer de faire. Et en tout cas, le nouveau dispositif répond à cet objectif et on en est très heureux.
Donc l'idée, c'est de ne pas détruire ces emplois, on le comprend bien, de garder ces talents aussi en France, avec le dialogue social. On arrive au bout de l'interview simplement, mais Hubert Mongon, je me dis que vous avez forcément des prévisions, des projections. Est-ce que vous n'êtes pas capable ce matin de nous dire combien d'emplois vont être détruits, peuvent être détruits, sont menacés dans l'industrie ?
Ah, c'est plusieurs dizaines de milliers.
Voilà. Plusieurs dizaines de milliers d'emplois, c'est ce que vous dites ce matin. Hubert Mongon, merci beaucoup. Merci d'être venu répondre à nos questions. L'un des inspirateurs, je dis inspirateur parce que vous l'avez imaginé pour l'industrie, puis présenté à l'exécutif.
Et puis encore une fois, je pense qu'il peut aujourd'hui concerner d'autres secteurs d'activité. C'est aujourd'hui qui est important.
Le chômage partiel de longue durée. On va en reparler ce matin. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, est l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15. Vous avez un message à laisser à la ministre du Travail, Hubert
Mongon ? Non, je crois qu'il faut saluer le travail qui a été fait avec elle. On a énormément travaillé sur ces sujets là depuis 2-3 semaines et on est très heureux de voir que nos idées ont été reprises et qu'elles puissent profiter à l'ensemble de l'économie française.
Nos auditeurs, en tout cas, auront aussi des questions à poser à Muriel Pénicaud sur le hashtag Europe 1. C'est ce matin les acteurs de l'actualité en direct. Il est 7h47.
Europe 1. Annulé pour cause de crise sanitaire, le festival jazz à Vienne a bien lieu, mais sur Internet ou dans les rues de la ville. Périscope avec Jean-Philippe Ballas. Europe 1. Il est 7h50. Vous écoutez Mathieu Bélière sur Europe 1.
Et Périscope, votre rendez-vous culture, tous les matins, la culture à 360 degrés avec vous, Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Allez, ce matin, concert en plein air. La chanteuse Michelle David, c'était l'été dernier sur la scène de jazz à Vienne, le grand festival de la vallée du Rhône, qui résiste à sa façon cette année face à la crise sanitaire.
Ouais, on va se mettre tout de suite dans l'ambiance. Venez vous asseoir avec moi parmi les vieilles pierres dans ce lieu emblématique, éclectique, le théâtre antique de Jazz à Vienne. Avec un habitué du festival, c'est le patron de Jazz Magazine, Frédéric Goati, qui vous raconte cette soirée inoubliable quand il s'était faufilé sur scène, oui, carrément, parmi quelques légendes vivantes.
Je me souviens d'un concert de Herbie Hancock au piano, Wayne Shorter au saxophone et Marcus Miller à la basse, à la contrebasse même exceptionnellement, un hommage à Miles Davis. Et j'avais eu la chance de pouvoir me cacher derrière l'ampli de Marcus Miller. J'ai pu assister et écouter, comme un enfant qui écouterait quelque chose d'interdit, ce concert extraordinaire pendant plus de 2 heures. Et parfois, quand je penchais légèrement ma tête, j'apercevais le public de Jazz à Vienne. Quand le lieu affiche complet, il y a près de 8000 personnes, et ces 8000 personnes sont les unes à côté des autres, ah, c'était le bon temps. Et c'est extraordinaire parce que le théâtre antique est très pentu, et les gens, on a l'impression que c'est un mur vivant de personnes quand on est comme ça sur scène, et je pense que pour les musiciens, c'est extraordinaire, vraiment.
Et là, vous avez sans doute reconnu le grand George Benson et sa guitare. Et cette année donc, malgré le coronavirus, on va entendre du jazz à Vienne avec des archives, des captations de concerts qui sont diffusées dans les bars, les restaurants. Il y a aussi la chaîne YouTube qui va vous offrir quelques pépites. Il y aura même 2 concerts exceptionnels retransmis depuis ce fameux théâtre antique, sans public forcément, mais avec toute la passion, vous allez l'entendre, du festival et de son directeur général, Samuel Riblier.
Il y a un besoin physique, il y a un besoin viscéral. Parmi les choses qui vont être diffusées cet été, on a une petite vidéo d'Ibrahim Malouf qui nous a fait vraiment chaud au cœur parce que, en fait, il dit exactement ce qu'on aimerait que tout le monde dise, c'est-à-dire c'est un gros festival. Pour autant, on espère le faire encore avec du cœur, fait avec de la proximité. Le message, c'est qu'on est là. J'espère que vous ne nous oubliez pas, nous, on ne vous oublie pas. Vivement 2021, absolument.
Est-ce que vous entendez, ce sont les captations de Jazz à Vienne. En attendant l'été prochain, on en profite pour saluer tous les festivals qui résistent à leur manière, comme ils peuvent, selon leurs moyens, selon leur taille, qui résistent pour cet été. Merci Jean-Philippe Ballas, c'était Périscope, votre rendez-vous culture.
7h53, c'est l'opinion de Nicolas Bétou sur Europe 1.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le Fonds monétaire international a annoncé hier qu'il révisait nettement à la baisse ses perspectives économiques pour l'année 2020.
Le coronavirus aura donc fait encore plus de dégâts sur l'économie qu'on ne l'avait imaginé jusqu'ici. Alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais plutôt de citations. Elles sont tirées de ce rapport du FMI. C'est une crise comme aucune autre auparavant. La pandémie a eu un impact plus négatif que prévu. Et pour ce qui concerne l'avenir, malheureusement, le retour de la croissance sera plus graduel qu'espéré. Le ton est donné et il est résolument plus alarmiste que tout ce qu'on avait entendu jusque-là.
Il y a quand même quelques chiffres pour fixer les idées.
Je vous reconnais bien là, Mathieu. En voilà des chiffres. En avril dernier, le FMI pariait sur un recul de l'économie mondiale de 3% sur l'année. Aujourd'hui, ces experts affirment que la récession sera de 4,9%. C'est un décalage himalayesque. Et pour bien prendre conscience de ce que ça représente, je rappelle le chiffre de référence, celui de la dernière grande crise mondiale. C'était en 2009 et l'économie globale avait reculé de 0,1%. 0,1 il y a 10 ans, 4,9% aujourd'hui.
C'est violent. C'est violent, en effet. La France, Nicolas, dans ce panorama ?
Ah, pas bien placé du tout. Pas de doute, le fameux « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron a été pris au pied de la lettre. Le « restez chez vous », martelé, seriné, rabâché tous les soirs. La peur aussi, les attestations pointilleuses, le score fièrement brandi par les policiers et les gendarmes comme un trophée du nombre de contraventions dressées. Eh bien, tout ça a parfaitement fonctionné. La France s'est barricadée et se retrouve en queue de peloton. Pour nous, ce sera 12,5% de récession.
Bon. 12,5. Mais le mot d'ordre a changé, Nicolas. Dorénavant, c'est il faut relancer l'économie.
Voilà, Emmanuel Macron dit même qu'on doit pleinement faire repartir l'économie et qu'il compte sur les Français pour cela. Ouais, sauf que ça ne se passe pas comme ça. Rares sont les secteurs qui ont pleinement repris. Et rares sont les patrons qui peuvent affirmer que tous les salariés qui le pourraient sont revenus et que tout repart pleinement. Le cocktail chômage partiel, télétravail, lenteur de la réouverture des écoles a freiné le retour au boulot. Le gouvernement lui-même a mis du temps d'ailleurs à alléger les protocoles sanitaires pour les entreprises qui ne datent que d'hier. Ben, c'est autant de chances en moins que le rebond de la croissance soit rapide et puissant.
Et les syndicats n'étaient pas vraiment chauds pour le retour sur les lieux de travail.
C'est vrai, mais ça dépend. Il y a ceux qui ont fait du confinement une arme contre les entreprises, la CGT bien sûr, et ses actions en justice. Et puis il y a ceux qui continuent à privilégier le sanitaire, mais acceptent l'idée d'un retour progressif. C'est le cas de FO et de la CFDT. C'est d'ailleurs leur intérêt au syndicat. Laurent Berger reconnaît par exemple en privé que la désocialisation, le relâchement du lien entre l'entreprise et ses salariés, tout cela résonne aussi comme un immense défi pour les syndicats. Voilà, la distanciation physique avec l'entreprise, ce n'est pas forcément un bon geste barrière.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Votre édito tous les matins sur Europe 1 juste avant 8h. Et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, à 8h15 face à Sonia Mabrouk et avec vos questions sur le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Un nouveau journal à suivre et la météo avec Laurent Cabral sur Europe 1.
À 7h59, nous retrouvons Laurent Cabrol. C'est l'heure de la météo, Laurent. Il fait chaud.
Il fait chaud. Il va faire très chaud aujourd'hui, entre 26 et 36 degrés. C'est 36 degrés vers Nemours, en banlieue parisienne. Paris-Lyon, 35, 33 à Dijon, 30 à Marseille, 27 à La Rochelle pour les moins chaudes. Bon, bref, tout le monde tourne la tête à gauche maintenant. Tac. Voilà, on regarde l'océan, on regarde l'Atlantique. Oui, les nuages arrivent, les orages vont arriver et ils vont envahir un petit peu la France aujourd'hui, jusqu'aux confins de l'Île-de-France, de la région parisienne. Demain, ils vont envahir pratiquement presque tout le pays, on va le dire. Et puis samedi, dimanche, s'annonce comme des journées, comment dirais-je, instables et beaucoup moins chaudes. Là, les températures vont baisser. On peut appeler ça des journées pagailles, tiens.
Ouais, instable. Merci beaucoup Laurent Cabrol. Vous êtes sur Europe 1, François Geffrier avec nous. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Installez-vous confortablement et écoutez le monde changer.